Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix d'Autriche 2022 disputé au Red Bull Ring. Alors, cet épisode, je vais le faire tout seul, donc non, il n'y aura pas de Marc-André ou bien de Julien Dana Maria et compagnie pour cet épisode, mais ils devraient être là en principe jeudi lorsqu'on va faire la revue de mi-saison. Alors, avant de commencer les évaluations et de revenir sur la course ou la fin de semaine en tant que telle, Je vais faire un éditorial qui ne me plaît pas à faire. Je sais pas combien j'ai fait d'éditorial depuis le début du podcast, mais celui-là, il est assez sérieux. Au cours de la fin de semaine, il y a eu beaucoup de personnes, de fans qui se sont plaints d'être victimes d'harcèlement. Que ce soit sexiste, raciste, homophobe, whatever, il y en a eu de toutes les sauces au cours de la fin de semaine dans les gradins du Red Bull Ring. Et ce qui a forcé la Formule 1 à sortir un autre communiqué pour dire que ce qu'on a vu est dégueulasse, mais évidemment, je sais qu'il n'y aura pas d'action prise, connaissant la Formule 1. Mais tout ça pour dire que je lève mon chapeau à Mercedes à Aston Martin ainsi qu'aux pilotes d'avoir dénoncé ces actes barbares d'harcèlement parce que moi, je trouve ça vraiment imbécile et je pèse mes mots. Je trouve ça imbécile de la part de certains fans de venir dépenser de l'argent pour non seulement les billets, mais pour le transport et ou l'hôtel, peu importe où vous habitez, d'où proviennent ces fans, pour être impoli envers ces personnes qui n'ont rien demandé. Je souligne encore une fois les actes de Mercedes et d'Aston Martin d'avoir invité des fans qui ont été victimes d'harcèlement au cours de la fin de semaine et vraiment des mots durs de la part, entre autres, de Toto Wolff, le directeur d'équipe de Mercedes, qui a dit, et je cite, « Fuck off » et on ne veut pas de vous sur le circuit. Il y a Sébastien Vettel qui a demandé à ce que ces fans en question soient bannis. Je suis totalement déçu de la tangente que ça prend. Je sais que ce n'est pas quelque chose de nouveau d'avoir des cas d'abus, d'harcèlement, de violence physique ou bien même psychologique qui a lieu dans n'importe quelle enceinte sportive. Mais dans le cas de la Formule 1, évidemment, il y a vraiment, je trouve, un gros laisser-aller. Et je ne vise personne en particulier, évidemment. Je dis ça de manière générale. J'ai l'impression qu'il y a un énorme manque de savoir-vivre. Donc, et la Formule 1 qui n'aide pas la cause avec des sorties de communiqués à l'emporte-pièce, mais qui ne prend pas les choses en main. Au lieu de, j'espère qu'ils ont parlé avec les promoteurs du Grand Prix d'Autriche pour l'année prochaine ou bien pour les prochains événements, parce que je suppose qu'il y a le Grand Prix d'Autriche en MotoGP qui arrive bientôt, si je me trompe pas. Donc, ça devrait peut-être leur donner un temps pour gérer tout ça, parce que apparemment, ce sont des trucs qui sont faciles à implanter, des solutions pour permettre aux fans de pouvoir avoir une expérience clientèle, une expérience client assez non seulement respectueuse, mais assez saine aussi. Alors, je suis vraiment déçu de ce qui est outré aussi de ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux en termes de cas d'harcèlement, d'abus, de toutes sortes. Ça n'a pas sa place, non en Formule 1, mais ça n'a pas sa place dans la société tout court. Alors, voilà, le point est dit. Et j'espère que la Formule 1 va mettre ses culottes et agir pour parler avec les autres organisateurs, les autres promoteurs des prochains Grands Prix pour éviter d'avoir les mêmes cas qu'on a eu au Grand Prix d'Autriche. Bref, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, on va passer tout de suite avec le résultat du Grand Prix d'Autriche 2022. Alors, pour la première fois depuis le Grand Prix d'Australie 2022, donc qui a lieu au mois d'avril, au début du mois d'avril, eh bien, Charles Leclerc a remporté l'épreuve. Et c'est un premier podium pour Leclerc depuis sa deuxième place au Grand Prix de Miami. Donc, ça fait déjà 2 mois, étant donné que la course à Miami était en mai. Donc, Leclerc gagne devant Max Verstappen sur la Red Bull. Lewis Hamilton termine troisième. George Russell, pardon, en dépit d'une pénalité de 5 secondes qu'il a obtenue au départ pour avoir accroché Sergio Perez, termine quatrième. Esteban Ocon finit cinquième. Mick Schumacher obtient son meilleur résultat à date en Formule 1 avec cette sixième place. Lando Norris est septième. Kevin Magnussen, huitième. Daniel Ricciardo marque enfin des points. 2 points avec une 9e place. Et Fernando Alonso, peut-être au moment où au moment où j'enregistre, est 10e. Évidemment, il est sous enquête pour sortie des puits dangereuses apparemment pendant la période de voiture de sécurité virtuelle causée par l'abandon de Carlos Sainz. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, on a perdu Sainz. On a aussi perdu Nicolas Latifi et Sergio Perez dans cette épreuve. Alors, je vais passer tout de suite aux évaluations post-Grand Prix que je n'avais pas fait la semaine dernière dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Alors, performance au top. Évidemment, je vais la donner à Charles Leclerc, mais aussi à Mick Schumacher qui a été très bon durant l'épreuve. Haas aussi, en général, a été très bon, mais Mick s'est plus démarqué que Kevin Magnussen. Même Lewis Hamilton mérite une mention honorable étant donné la fin de semaine qu'il a connue. Donc, vraiment, c'est Leclerc. Mick Schumacher et Haas et Lewis Hamilton sont mes performances au top. Contre-performance, évidemment, toute l'ambiance du Grand Prix d'Autriche avec ce dont j'ai parlé en début d'émission avec les cas d'harcèlement, les huées aussi lorsque, pas les huées, mais les célébrations lorsque Lewis Hamilton a eu son accident. Mais sinon, en course, ben AlphaTauri, ben Pierre Gasly qui s'est pris 2 pénalités de 5 secondes, une pour avoir causé une collision avec Sébastien Vettel et l'autre avec les track limits. Donc, sinon, ça a été vraiment une course hyper difficile. Et un moment cocasse que j'ai vu, c'est lorsque Fernando Alonso a décidé de faire un petit geste de doigt à Yuki Tsunoda pour lui dire « Non, 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 écoute, tu m'as poussé un peu trop, tu as été un peu trop vers le gravier, j'ai été obligé de te dépasser avec 2 roues sur le gazon. » Donc, ce qui m'a fait penser un peu au fameux « All the time you have to leave at the space » au Grand Prix de Bahreïn en 2012 avec Nico Rosberg. Donc, c'était probablement de mauvais souvenirs qui sont revenus pour Alonso lorsque Tsunoda a tenté de défendre sa position. Donc, on va parler maintenant de la victoire de Charles Leclerc. Est-ce que je pourrais dire une victoire amère pour Ferrari? Parce que je vais essayer d'analyser ça en deux temps. La première, évidemment, c'est le fait que Leclerc ait gagné cette course. Il a été sans faute pendant les 71 tours. Il s'est même permis de dépasser Max Verstappen à 3 reprises. Le premier avec un plongeon assez juste et propre à l'endroit de Verstappen au virage 4. Un virage connu pour des séries d'accrochages et de pilotes qui poussent son adversaire hors piste pour défendre sa position. Mais Leclerc, son plongeon sur Max Verstappen, c'était de toute beauté. Vraiment, Leclerc, je sais que c'est un pilote qui est fair, mais je crois que depuis l'épisode du Grand Prix d'Autriche 2019 où Verstappen l'a dépassé un peu de manière controversée, ça a réveillé un peu un Charles Leclerc un peu plus agressif, mais qui a été capable d'être un peu plus agressif et de bien calculer ses dépassements. Et c'est ce qu'il a fait avec brio. Évidemment, il y a eu une bonne et rare stratégie réussie de la part de Ferrari où, évidemment, Leclerc avait beaucoup plus de rythme que Verstappen lors de la première partie de l'épreuve avec un premier relais assez bon. Ensuite, bon, Verstappen a décidé de faire une course à 2 arrêts. Donc, médium, dur, dur. Leclerc a été capable de prolonger son relais en médium. Et je pensais qu'il allait se diriger vers une stratégie à 1 arrêt. Sauf que Ferrari, pour une rare fois, a senti que Verstappen était beaucoup plus agressif et tout, mais pas assez pour tenter un dépassement sur Leclerc. Donc, il fallait que Ferrari réagisse vite et c'est ce qu'ils ont fait. Lorsque Leclerc a effectué son deuxième arrêt, j'ai été un peu surpris, soyons honnêtes. Et je croyais que Ferrari allait, comme à leur habitude, échapper cette victoire potentielle. Mais pas cette fois-ci, parce que Leclerc avait définitivement beaucoup plus de rythme que Verstappen. Et comme on dit, jamais 203, Leclerc a été capable de dépasser Verstappen en bonne et due forme. Donc ça, Leclerc a été très bon là-dessus. Des dépassements calculés, osés en plus. Il savait qu'avec le sprint, il avait un peu de rythme en fin de sprint samedi. Il a été capable de rattraper Verstappen, alors ça donnait un certain élan de positivité du côté de Ferrari et de Leclerc. Et ça s'est exactement transformé en ce qu'on a vu dimanche lors du Grand Prix. Et d'ailleurs, ce n'était pas sans frousse parce que Leclerc a rapporté des problèmes de pédale d'accélération, en fait, où, disons, il accélérait à quoi? 20%, il réaccélérait à quoi? 20% de ce qu'il pouvait faire en temps normal. Donc, ce qui a permis à Max Verstappen de se rapprocher, mais à un moment donné, il a été capable de gérer le tout. Donc, disons, plus de peur que de mal que pour Ferrari. Par contre, il faut qu'on parle de l'autre, de l'aspect un peu plus dark, si je peux dire, c'est l'abandon de Carlos Sainz. Donc, Carlos Sainz, qui lui aussi connaissait une bonne course, la Ferrari avait un bon rythme comparé à la Red Bull de Max Verstappen. Malheureusement, Ce qui est dommage, c'est qu'il a été obligé d'abandonner à la suite d'un problème de moteur apparemment. Ça brûlait vraiment. Et je dois dire, les commissaires de piste ont vraiment pris du temps ou ont mal géré les trucs pour essayer non seulement de faire ralentir la voiture de Sainz qui avait abandonné au virage 4, mais aussi là, on a vu la voiture en feu et ça a pris un peu de temps avant d'amener l'extincteur et aussi d'essayer de stabiliser la Ferrari qui commençait à brûler. Donc, vraiment, c'était pas quelque chose de fameux de la part des commissaires de piste. Mais pour revenir au point, Sainz, avant son abandon, avait vraiment le potentiel pour terminer deuxième. Parce que je crois que la Ferrari avait montré une bonne gestion de pneus comparé à la Red Bull de Verstappen, où justement l'enjeu de la dégradation des pneus était plus importante qu'on le pensait au final. Et ça a moins impacté Ferrari comme que ça aurait pu être le cas en début de saison. Donc, Verstappen a été, disons, je dirais, pas amputé, mais entravé par ceci. Et ce qui a permis à Sainz de se rapprocher. Mais malheureusement, au moment où on voyait l'Espagnol se rapprocher, ben malheureusement, il a abandonné. Et ça, pour le championnat, ça aurait été vraiment, c'est un coup dur parce que avec l'abandon de Sergio Perez, Ferrari pouvait aller grappiller quelques points de retard sur Red Bull au championnat des constructeurs. Donc, disons que ce n'était pas quelque chose que Ferrari aurait aimé voir. Et ça relance aussi toute la question, évidemment, des problèmes de fiabilité du moteur Ferrari en tant que tel, et pas seulement de l'écurie, mais aussi de l'écurie mère, mais aussi des équipes clientes, à savoir Alfa Romeo et Haas. Donc, et d'ailleurs, on a vu ce problème lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan où on a eu Leclerc, Kevin Magnussen et Zhou Guanyu abandonnés justement dû à des problèmes reliés au moteur. Donc, c'est quelque chose que Ferrari devra tenter de régler le plus vite possible. Sinon, on va parler de Red Bull. Red Bull, vraiment, moi, je pensais que avec le sprint de Verstappen qu'il a remporté samedi, je pensais que ça allait être un petit peu une marche, un coup de circuit pour Max Verstappen. Au contraire, ça a été tout le contraire. La Ferrari, comme je disais, a montré beaucoup plus de potentiel que la Red Bull. Et même à ça, les pneus médiums de Verstappen n'ont pas tenu aussi longtemps qu'on pouvait l'espérer. Alors, Pirelli disait qu'on allait avoir une course à un arrêt si vous partiez avec les pneus médiums en début d'épreuve. Mais là, ça a été beaucoup plus tôt. Et Verstappen s'en est même plaint. À un moment donné, il avait de l'adhérence. Ensuite, il n'en avait plus le tour suivant. Et ça, c'était au moment où il avait changé ses pneus pour la première fois pour les durs. Alors, vraiment, c'est triste pour Verstappen, mais ce n'est pas tant dommageable pour lui parce qu'il perd 7 points sur Leclerc, qui, en passant par ce deuxième après, avec non seulement sa victoire, mais l'abandon de Checo Pérez. Mais évidemment, sur un circuit où, dans le passé, il a été très bon, c'est pas tant, comme je disais, dommageable pour lui. 7 points, il a perdu 7 points. Mais, évidemment, à ce stade-ci de la saison, avec Carlos Sainz qui avait bien fait à Montréal. Et évidemment, cette victoire de Sainz, mais le rythme de Ferrari à Silverstone, comme Red Bull commence un petit peu à s'inquiéter. Alors, c'est quelque chose que l'écurie doit revoir et faire en sorte que, par exemple, dans deux semaines, lorsqu'on va aller au Grand Prix de France, il n'y ait pas de situation où ça va se répéter. Alors, j'ai vraiment hâte de voir comment Red Bull va rebondir après tout cela, parce que vraiment, Verstappen, je pense que je le voyais vraiment vainqueur avec les deux Ferrari derrière. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, ouais. C'est vraiment quelque chose, en fait. Vraiment d'intéressant à voir comment les prochaines épreuves vont se dérouler, parce qu'on va voir la France et la Hongrie coup sur coup aussi. Là, je viens de lire. Le top 3, Leclerc, Verstappen et Hamilton, dont on va parler un peu après, ont été convoqués au bureau des commissaires de la FIA pour probablement des possibles infractions au niveau des règles de parc fermé. Donc, moi, il faudrait que je voie, en fait. Mais d'après moi, je pense que ça va être juste une tape sur les doigts. Donc, ça va être à surveiller. Bon, parlant de Sergio Perez, Checo a fait un très bon sprint. Parti de la 13e place après avoir vu ses tours en qualification supprimés en Q2 et en Q3 ensuite. Il a fait de 13e à 5e en sprint. En course, disons, ça a été vraiment ruiné par le contact avec George Russell au virage 4, comme on a vu par hasard entre Lewis Hamilton et Alex Albon au tout premier Grand Prix de la saison 2020 en Autriche. Il doit y avoir quelque chose là, entre Mercedes, Red Bull et le virage 4 du Red Bull Ring. C'est comme ça. Ce n'est jamais bon signe quand on voit ça. Mais la course de Checo a été ruinée à ce moment-là. Alors, il a été obligé de changer ses pneus, d'avoir une petite réparation, je pense. Changer ses pneus parce qu'il y a une crevaison, en fait. Mais sa course était déjà ruinée. Et ensuite, ça a été un abandon pour le Mexicain. Donc, c'est un deuxième abandon en 3 courses pour Checo. Disons que ce sont 2 abandons qui ne sont pas de sa faute. Et même l'incident à Silverstone la semaine dernière, disons qu'il était pris au piège avec Leclerc et Verstappen entre lui. Donc, vraiment, Checo a été malchanceux au cours des 3 derniers Grands Prix, mais à Silverstone, il a réussi à terminé sur le podium avec une belle remontée. On aurait espéré voir la même chose aujourd'hui. Ça ne s'est pas passé. Mais vraiment, ça fait mal pour Checo. Vraiment mal pour Checo. Cependant, ce qui ne fait pas mal, c'est à Lewis Hamilton qui obtient un 3e podium consécutif cette saison. Encore une fois, termine 3e, je pense. C'est encore une fois son meilleur résultat de la saison. Une 3e place. Surtout après son accident lors des qualifications en Q3 vendredi. un rare accident en qualification pour Hamilton, de sa propre faute même. Donc, c'était assez rare. C'est relativement bien battu en sprint, a dû faire face à Mick Schumacher, ça lui a pris du temps avant de le dépasser. Mais cette fois-ci, il s'était encore retrouvé derrière les deux Haas en course. Et cette fois-ci, ça a fonctionné. Il a été capable de dépasser les deux pilotes. Et la stratégie a bien fonctionné du côté de Hamilton, malgré un arrêt au puits lent. Son premier arrêt était assez lent quand même. Donc, vraiment chanceux de la part du pilote britannique, qui a profité de l'abandon, premièrement de Perez pour gagner une place, mais ensuite l'abandon de Sainz qui lui a permis de monter sur le podium. Sinon, il aurait été quatrième et il a dû dépasser la Alpine de Esteban Ocon pour ce faire. Donc, Hamilton a fait du très bon travail pour non seulement limiter les dégâts, mais offrir un autre podium à Mercedes parce que c'est un, je pense qu'il a, donc il y a eu un pod, c'est un, donc il y a eu Azerbaïdjan, Canada, Grande-Bretagne et maintenant Autriche. Donc c'est un quatrième podium consécutif pour l'écurie Mercedes. Évidemment, le podium en Azerbaïdjan, c'était George Russell. Avec cette troisième place à Bakou. Donc, oui, les mises à jour qu'on a vues à Silverstone semblent fonctionner pour Mercedes, mais pas encore assez pour aller vraiment titiller Ferrari et Red Bull. Est-ce qu'ils vont réussir à obtenir l'objectif de gagner au moins une course en 2022? Peut-être, mais est-ce que Hongrie va être leur meilleure chance avant les vacances? Peut-être, mais je ne pense pas. On verra cela, mais on voit lentement, mais sûrement, le développement. Et d'un autre côté, on a vu George Russell, lui aussi, qui a eu un accident lors de la Q3, mais qui a réussi à se qualifier quatrième, a été tranquille en sprint, mais en course, ça s'est gâché alors qu'il essayait de se défendre en se battant contre Sergio Perez. A fait exactement la même chose que Lewis Hamilton avait fait à Alex Albon en 2020. Naturellement, il s'est pris une pénalité de 5 secondes et Perez avait dit, entre autres dans les médias sociaux, qu'il avait donné tout l'espace à Russell. Et je suis d'accord avec lui. Je crois que Russell pouvait éviter ce contact facilement. Donc, c'était une pénalité de 5 secondes qui l'a servi lorsqu'il s'est arrêté au puits, mais a été quand même capable de revenir à l'assaut pour finir à sa position de départ. Donc, quand même, ça a été un solide résultat pour Mercedes au Red Bull Ring, malgré le manque de vitesse du moteur Mercedes comparé au Ferrari et au Red Bull. Sinon, il y a une écurie qui a encore bien fait et qui obtient pour un deuxième Grand Prix consécutif des doubles points avec les deux voitures dans les points. Ben, c'est Haas avec Mick Schumacher, sixième, et Kevin Magnussen, huitième. Vraiment, les Haas sont en train de faire du bon travail. Vraiment du très bon travail. Et pourtant, on le rappelle, c'est une voiture qui aura ses vraies mises à jour. Je pense, si je me souviens bien, c'était au Grand Prix de Hongrie. Donc, la voiture de base, elle fonctionne bien. Elle commence à fonctionner un peu mieux. Et dans le cas de Mick Schumacher, on le voit beaucoup plus agressif, mais capable de calculer ses actions. Il a réussi de très beaux dépassements. En sprint, il s'est bien battu contre Lewis Hamilton. Et vraiment, je crois qu'il mérite son titre de pilote du jour. Mick Schumacher, depuis le Grand Prix du Canada, est en train de se... On est en train de, peut-être de voir le Mick Schumacher qui, dans sa deuxième saison, va à un autre niveau. Parce que, je vous rappelle, je l'avais dit dans la balado diffusion il y a quelques épisodes, Mick Schumacher, dans sa deuxième année des catégories juniors, entre autres en Formule 3 et en Formule 2, dans sa deuxième saison, il devient vraiment bon. Comme si, bon, la première année, il apprend, mais ensuite, la deuxième partie, bon, c'est un peu plus difficile, mais là, c'est un peu plus difficile. Et la deuxième, ben là, il explose. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Depuis, je dirais même, le Grand Prix du Canada. Malgré le fait que Schumacher ait eu un abandon, je crois qu'il pouvait marquer des points. Il l'a fait à Silverstone, où il a sorti les bas. Il s'est bien battu contre Max Verstappen, même si ce dernier a réussi quand même à tenir sa position. Mais en Autriche, il a été bon autant en sprint qu'en course. Donc, vraiment, je crois que c'est une excellente nouvelle pour Haas de voir son pilote allemand faire beaucoup mieux que ce qu'on avait en début de saison, faire beaucoup moins d'erreurs. Et là, on espère vraiment que ça va continuer comme ça, qu'il va nous prouver qu'on a eu tort de douter de lui. Alors, ça ne fait que commencer, d'après moi. Quant à Kevin Magnussen, un peu plus tranquille. Évidemment, a fait sa course à lui, avec le sprint. En course, un peu plus tranquille que Mick. Mais vraiment chapeau de la part de Magnussen pour son dépassement osé. Dans cette bataille, il y a plusieurs entre lui, Lando Norris, Fernando Alonso, Zhou Guanyu et Yuki Tsunoda. Vraiment, il a été capable de prendre sa chance avec la Alpine d'Alonso et la AlphaTauri de Tsunoda de le passer, et même la Alfa Romeo de Zhou. Il a été capable de prendre une très bonne décision en allant dépasser les deux. Et même Lando Norris qui s'amenait, il l'a laissé passer, mais ensuite a été capable au virage 4 de reprendre sa position lorsque Norris est parti un petit peu large et que Magnussen gardait sa ligne de course. Donc, vraiment, Magnussen a réalisé un des meilleurs dépassements de ce Grand Prix. Évidemment, pas au même niveau que Charles Leclerc sur Verstappen. Le premier dépassement de Leclerc sur Verstappen, mais vraiment chapeau à Haas d'avoir eu une solide performance pour compléter ce programme double Grande-Bretagne-Autriche. Entre les deux Haas, il y a eu McLaren. Un vendredi très difficile pour autant Lando Norris que Daniel Ricciardo. Les deux ayant été éliminés respectivement en Q1 dans le cas de Ricciardo et en Q2 de la part de Norris. Mais ils ont gagné du terrain lors du sprint. En course, Norris a été beaucoup plus expéditif que Ricciardo, malgré le fait que Norris ait obtenu une pénalité de 5 secondes pour limite de la piste. Néanmoins, Norris, encore une fois, a le dessus sur Ricciardo. Donc, je crois que ce n'est plus surprenant rendu à ce moment-ci de l'année que après une saison et demie, Norris a carrément le dessus sur l'Australien. Pour Ricciardo, c'est une troisième présence dans les points pour le pilote australien qui compte 17 points cette saison. Oui, il a gagné deux places au classement maintenant, au Red Bull Ring. Mais sérieusement, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de vraiment qui ne fonctionne pas. Vraiment, je crois que il y a des questions à se poser du côté de McLaren. Qu'est-ce qu'on fait avec Ricciardo? Parce que là, trois fois dans les points, alors que Norris a un podium et des performances constantes. Moi, si j'étais Zach Brown, je me questionnais à savoir est-ce que Daniel Ricciardo est l'homme de la situation pour l'année pour 2023. Si tu veux vraiment avancer, parce qu'actuellement, McLaren est quatrième à égalité avec Alpine. Donc, de voir Ricciardo trois fois dans les points cette saison, ce n'est pas exactement ce qu'on veut quand on regarde, quand on compare par exemple le duo Alonso-Ocon. Ocon est constant. Alonso aussi, malgré les problèmes techniques, les problèmes mécaniques qu'il a eus. Mais les deux pilotes sont capables de livrer la marchandise. Tandis que Ricciardo, bien qu'il ait marqué 2 points aujourd'hui, était complètement anonyme. Et là, il y a Ted Kravitz, samedi, qui a lancé cette rumeur que McLaren sera en pourparlers pour essayer d'obtenir Oscar Piastri pour 2023 en remplacement de Daniel Ricciardo. Ajoutez à ça le fait que Colton Herta, présentement en IndyCar avec Andretti Autosport, va tester la McLaren de l'année dernière à Portimão, au Portugal. Ça, c'était déjà arrangé depuis des mois que Herta allait tester une McLaren dans le cadre d'un programme de préparation en cas d'une éventuelle arrivée en Formule 1. Mais là, la question se pose, que fait-on avec Daniel Ricciardo? Parce que trois fois dans les points en 2022, comparé à Lando Norris, ça fait vraiment mal. Donc, ceci est à suivre. Là, on va parler de Alpine, justement, à égalité avec McLaren au classement des constructeurs. Si c'est encore... Oui, je pense que c'est encore le cas, parce que je dis si c'est encore le cas... Parce que Fernando Alonso, aux dernières nouvelles, était sous enquête pour sortie des puits dangereuse au cours de l'épreuve lors de son dernier arrêt au puits. Donc là, on n'a pas encore de décision de la FIA jusqu'à présent. Mais reste que c'est vraiment, encore une fois, un très bon départ de la part de... C'était une très bonne course pour autant Fernando Alonso que pour Esteban Ocon. D'ailleurs, je viens de lire. Donc, Alonso ne sera pas pénalisé pour sa sortie des puits dangereuses. Donc, il garde sa 10e place. Mais Alonso a eu des problèmes pour débuter le sprint. On avait vu samedi que ses couvertures de pneus étaient encore coincées. Là, il était parti de bon dernier à cause de ça, mais il a été dans le coup pour se battre. Et évidemment, ce dont je vous parlais dans comme moment cocasse, quand il dépasse Tsunoda avec les deux roues sur le gazon, puis il lui fait le signe de « Non, 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 avec son doigt, tu ne peux pas faire ça. » Ça, c'était vraiment drôle, mais c'est digne de Alonso qui, malgré son âge, est encore... Ben, je dis malgré son âge, il est capable de livrer la marchandise. Alors, vraiment, comme je disais, Alpine pouvait facilement être quatrième devant McLaren, n'eût été des problèmes mécaniques de Nando. Il est capable, il a encore ce qu'il faut. Moi, je ne serais pas surpris s'il revenait en 2023, parce que pour moi, il démontre entièrement qu'il a le niveau pour aider Alpine à être beaucoup plus compétitif. Quant à Esteban Ocon, encore une fois, bien qu'on ne l'ait pas vu beaucoup, à part pour quelques dépassements, il ramène de très bons points pour l'écurie française et surtout à l'approche du Grand Prix de France. C'est vraiment un pilote dont peut-être on pourrait dire sous-estimé, parce que on parle pas beaucoup de lui, mais il est capable de livrer la marchandise et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il termine cinquième. Il n'a pas fait de grosses erreurs. Ses dépassements, il les a fait au bon moment pour se donner une marge de manœuvre. Alors vraiment, chapeau à Esteban, chapeau à Alpine et chapeau à Fernando Alonso aussi. Alors, vraiment, Alpine a été excellent aujourd'hui. Bon, maintenant parlons d'un sujet qui a été un peu plus controversé. Ce sont les limites de la piste. Parce que, en fin de semaine, il y a eu beaucoup, beaucoup de temps supprimé. D'ailleurs, durant la course, il y en a eu une quarantaine qui ont été supprimées. Non seulement ça, mais la FIA a imposé des sanctions. Pierre Gasly a reçu une pénalité de 5 secondes. Il a été le premier pour excès des limites de la piste. Lando Norris a été le suivant. Ensuite, il y a eu Zhou Guanyu. Et au final, Sébastien Vettel dans le dernier tour qui a été pénalisé de 5 secondes. Et évidemment, avec le directeur de la FIA, le directeur de course de la FIA, un des deux, devrais-je dire, Nils Wittich, il a dit, c'était annoncé, si jamais les quatre roues allaient au-delà de la ligne blanche qui sépare la piste du vibreur, qui est situé entre la piste et le vibreur, vous serez averti. Sergio Perez en a payé le prix. Il pouvait s'élancer quatrième, mais à cause de ses tours en Q2 qui ont été supprimés, en Q3, ainsi que je pense un en Q2, celui qui était légal en Q2 était bon pour la 13e place. Donc, ça a, disons, impacté son sprint, même s'il a rendu les choses beaucoup plus faciles. Mais quand même, il y a eu beaucoup d'insatisfaction auprès des pilotes jusqu'au point tel où Sébastien Vettel avait quitté la réunion obligatoire des pilotes en furie et a reçu une amende suspendue de 25 000 euros, ce qui veut dire que si jamais il devait répéter la même chose, en 2022, Vettel devrait payer cette amende de 25 000 euros. Mais le point est que, je trouve que les limites de la piste, tout dépendamment des circuits, sont différentes. Mais je me souviens que au cours du début de la saison, Wittich avait dit que si jamais vous allez les quatre lignes hors piste, au-delà de la ligne blanche, votre tour serait supprimé. Et c'est pas la première fois qu'on a vu ça. Je me souviens, je pense, en qualification, Lando Norris s'est vu privé d'une Q3 justement parce que avant la maudite chicane au circuit de Barcelone, il avait les quatre roues sur le vibreur au-delà de la ligne blanche. Donc, oui, je comprends, il y a toujours eu de l'inconstance dans les décisions de la Fédération internationale de l'automobile, sportivement, je parle. Mais à un moment donné, il va falloir que la FIA mette les, soit conciliant aussi. Autant tu dis, bon, là, peu importe où vous allez, si vous êtes au-delà de la ligne, si les quatre roues sont au-delà de la ligne blanche à l'extérieur du circuit, ben là, vous êtes pénalisé, c'est tout. Ou sinon, ben, vous donnez une certaine marge de manœuvre. Surtout que le Red Bull Ring, c'est un circuit très rapide. C'est le circuit le plus court en matière de temps chronométré. Donc, il va falloir que la FIA fasse attention parce que, évidemment, c'est l'inconstance, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans la FIA. Même dans le temps de Michael Massey, même dans le temps de Charlie Whiting, aussi, c'était comme ça, il y avait de l'inconstance. Bref, là, on voit que ça ne plaît pas aux pilotes. Ça ne plaît aucunement aux pilotes et les médias rapportent que la relation entre les pilotes et les directeurs de course, parce qu'il y en a deux, il y a Nils Vitic, évidemment, mais il y a aussi Eduardo Freitas, qui n'était pas là en fin de semaine parce qu'il est à Monza pour les 6 heures de Monza en endurance, dont il est directeur de course, d'ailleurs. Mais je trouve que c'est jamais clair avec la FIA. C'est comme s'ils rendaient le sport difficile, non seulement pour les pilotes, mais aussi pour ceux et celles qui regardent ça. Alors, qu'est-ce que la FIA doit faire? Moi, je suis pas expert là-dedans, évidemment. C'est eux qui font les règles. Donc, ils peuvent essayer de trouver un moyen de régler ce problème. Et finalement, on va terminer cet épisode avec Formule 2 et Formule 3, puisqu'il y avait les séries de soutien cette fin de semaine au Red Bull Ring. On va commencer tout d'abord par la Formule 2, où là-bas aussi, ça a été le festival des limites de la piste, mais disons que pour la victoire, ça n'a pas été... Ça n'a pas été en danger pour Marcus Armstrong dans le sprint qui a remporté l'épreuve devant Théo Pourchaire et Jack Doohan. Et ce qui était beau à voir, c'est Jack Doohan, son père étant le légendaire motocycliste Mick, présent sur le podium avec Mark Webber, un de ses protégés. Je pense, gère non seulement la carrière de Ed Piastri, mais aussi Doohan, présent sur le podium pour remettre le trophée à Jack Doohan. Donc, c'était très beau à voir. Felipe Drugovic, lui, a terminé quatrième. Yuri Vips a terminé cinquième. Donc, voilà, c'était le top 5 en sprint. Sinon, en feature, c'était une course avec un résultat un peu fou. Richard Verschoor, le pilote néerlandais, était supposé gagner l'épreuve. Malheureusement, il a été disqualifié parce qu'il lui manquait de l'essence nécessaire pour le prélèvement. Pour vous référer en fait à une dernière disqualification de ce genre, Sébastien Vettel au Grand Prix de Hongrie l'année dernière. Donc, c'était un peu la même infraction que Verschoor a eu. Donc, il a perdu sa victoire dans la course principale. Cependant, la victoire était supposée revenir à Jahan Daruvala. Mais Daruvala a été pénalisé à son tour. Je pense que c'était une pénalité de 20 secondes. Donc, une pénalité de 20 secondes. Donc, Donc, je crois qu'il ne pouvait pas la, il ne pouvait pas la servir durant la course. Donc, le pilote Prema a perdu sa victoire et a chuté au 12e rang. Donc, il ne marque pas de points dans cette épreuve. Et c'est l'Américain et membre de l'écurie Williams, Logan Sargeant, qui gagne l'épreuve devant Enzo Fittipaldi, deuxième. Et un nom que vous avez peut-être déjà entendu en Formule 1, l'Espagnol Roberto Meri, qui était de retour cette fin de semaine, à un pilote âgé de 31 ans qui a roulé pour Manu Marussia en 2015 pour une majeure partie de la saison, a terminé troisième alors qu'il partait de la... je pense du fond en fond de peloton, genre 21e si je ne me trompe pas. Donc Roberto Meri a son à sa première épreuve de retour en Formule 2 obtient un podium. Donc ça c'était une belle surprise si on peut dire. Et au classement des pilotes, ben Drugovic est toujours en tête avec 154 points. Logan Sargeant est deuxième avec 115 et Théo Pourchaire complète le top 3 avec 114. Yaron Daruvala est quatrième avec 80 points et Enzo Fittipaldi cinquième avec 75 points. Donc la prochaine épreuve aura lieu au Castellet en France dans le cadre du Grand Prix de France. Donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Et ensuite, on va aller donner les résultats du côté de la Formule 3 qui avait lieu aussi à Spielberg. Pardon. Donc, dans la course sprint, Jack Crawford a remporté l'épreuve devant Caio Collet. Et ensuite, Colapinto sur la Van Amersfoort Racing complète le podium. Arthur Leclerc termine quatrième. Et dans la course feature, Isaac Hadjar a remporté l'épreuve principale devant Victor Martins et Oli Berman. Leclerc termine encore une fois quatrième. Donc, ça, c'était les résultats en Formule 3 au classement. Victor Martins est premier devant Hadjar. Donc, c'est encore un doublé français. 98 contre 97. Donc, l'écart est à 1 point. Et derrière, Arthur Leclerc est troisième avec 91 points. La prochaine épreuve de Formule 3 aura lieu non pas en France, mais à Budapest. Et c'est la dernière épreuve avant la pause estivale, le Grand Prix de Hongrie. C'est ce qui complète cet épisode d'après-course du bulletin GP. On va se retrouver jeudi pour la revue de mi-saison 2022 de Formule 1. Donc, on va revenir sur, disons, les performances des écuries, des quelques moments forts, nos impressions sur, en fait, la Formule 1, la nouvelle génération de Formule 1 aussi. Donc, on va revenir là-dessus. Et ce sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Donc, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres. Sinon, on est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram, @lebulletingp. Et évidemment, on vous invite aussi à joindre le groupe Facebook La Monoplace. Pour évidemment continuer la discussion, partager soit vos souvenirs, vos impressions sur le Grand Prix, créer une bonne discussion en fait entre fans de Formule 1 au Québec. Et moi, je vous retrouve évidemment jeudi pour l'émission d'après-course et pour la revue mi-saison, pardon. Et dans deux semaines, dans le cadre du Grand Prix de France, au circuit Paul Ricard. Mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, amusez-vous bien, et on se retrouve jeudi. Salut tout le monde!